simplement ajouter quelque chose sur la partie que soulevait Geoffroy tout à l'heure. Geoffroy Gasson est responsable du fonds de science à la bibliothèque et plus particulièrement de la collection de manuscrits. La DLL a organisé il y a maintenant une grosse semaine, 10 jours, 2 jours de rencontres sur les manuscrits dans tous leurs états, pour essentiellement les conservateurs, les bibliothécaires et les agents en charge de fonds anciens dans les bibliothèques municipales, classées et les autres. Et majoritairement des conservateurs de l'UPLC. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'est le discours tout à fait inverse. Et c'est nécessaire. Parce qu'on est en espace confiné. Mais ce qui en ressort, c'est qu'à l'heure actuelle, pour le moment, on est dans l'artisanat local. Chaque bibliothèque, à partir de la norme Thomas, la recommandation de Thomas, catalogue les manuscrits à sa sauce. Or, qu'est-ce qu'on fait avec environ 10 ans de retard? On va chercher une norme de l'instruction aux États-Unis et on l'adapte. Il y a un groupe AFNOR qui est piloté par Fabien Plazané à la DLL, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, qui travaille à l'adaptation d'une norme américaine. Je ressorte le nom exact de la norme. Le but étant d'avoir une norme à proposer aux services patrimoniaux des bibliothèques municipales classées, des musées, parce qu'il y en a, on catalogue aussi dans les musées, des BU, etc., au 1er janvier 2007. Norme qui sera testée. Et ensuite améliorée. Donc on est dans un parcours totalement inverse. Mais là, parce qu'on est sur des fonds tout à fait spécifiques, parfaitement décrits, limités en nombre, et qui représentent une histoire. Le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir, et puis tu me coupes si je me trompe, c'est dans le prolongement de ce que tu disais, sur l'histoire des catalogues. Le catalogue, c'est l'histoire de la bibliothèque. Pourquoi vouloir uniformiser à tout prix quelque chose qui est le reflet de l'histoire de la bibliothèque? Lorsque vous avez 3 informatisations déjà, prenez le catalogue de la bibliothèque, 3 informatisations, 4 informatisations. Lorsque vous avez des équipes de catalogueurs qui se sont relayées pendant des dizaines d'années, lorsque vous avez 30 ans pour la BPI, lorsque vous avez des choix en matière de catalogage qui reposent sur des choix de la direction, c'est-à-dire on catalogue en interne, on arrête, on passe à la récupération de données. Pour la BPI, ça s'est fait en 2002-2003 avec le passage, et ça a été l'objet de débats très importants parmi les 100 catalogueurs, hein, qui sont tous ou quasiment des conservateurs. Qui catalogue, et puis un jour ils se sont dit, ils ont fait venir un groupe de travail, un CIB de conservateurs. Moi je suis passé juste après, je vais vous dire sur quoi j'avais travaillé, parce que l'expérience est aussi intéressante. Le groupe de travail a travaillé sur l'idée de récupérer. Et qu'est-ce qu'on fait à la BPI désormais? On récupère. On récupère à la BNF. Et c'est normal, c'est normal. Il y a une agence nationale, enfin biographique nationale. Il y a des gens, des professionnels. Combien êtes-vous à travailler, à cataloguer? Combien il y a de personnel spécialisé qui catalogue à la Bibliothèque nationale de France?
Près de 400.
Il y a 400 catalogueurs.
Pour les acquisitions aussi.
Oui, mais pour les acquisitions. Il y a 400 personnes qui sont là pour cataloguer pour vous. Sur budget, ministère de la Culture. À quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on aille faire un travail qui a déjà été fait par des professionnels qui font ça à temps plein? Et par des gens qui sont formés spécifiquement pour ça. Mais l'équipe fiable, c'est celle de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont ses missions. Ben, vous nous en parlerez, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, au quotidien, ce sont ses missions. Donc, le groupe de travail auquel j'ai participé ensuite à la Bibliothèque, à la BPI, il est arrivé pour faire un référentiel de catalogage. On a passé 6 mois à essayer d'établir un référentiel de catalogage. Alors que il existait, et il existe toujours au sein de la BPI, une cellule de coordination bibliographique avec 4 personnes, dont 2 personnes payées à temps plein pour corriger le fichier autorité. Tous les jours, à temps plein. Que sur le fichier d'autorité des 500 000 documents en libre accès à la Bibliothèque publique d'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le référentiel qu'on a proposé n'est pas utilisé aujourd'hui. Hein. On a travaillé pour rien, mais c'est normal. C'est normal. Autre chose qui met en contradiction avec ce que tu disais par rapport à l'usage du catalogue. Je prends toujours l'exemple de la BPI, volontairement. Une enquête de public de 89 de la BPI montrait que le catalogue était utilisé environ 9%. Et les 91% restants, c'était pour la recherche documentaire, c'était de la recherche dans les rayons. Et puis, parce que le public de la Bibliothèque publique d'information a évolué, la dernière étude de Christophe Evans, qui remonte à 2003, sur le public et les modalités de recherche à la BPI, montrait que, mais ça reste une étude et ça reste une étude statistique. Ça reste c'est basé sur un questionnaire. On n'interroge pas tous les usagers. On interroge un échantillon qui est normalement représentatif. Montrait que, sur l'échantillon, 92% des personnes interrogées utilisaient le catalogue. Il faut rapporter ça au type de public. C'est aussi un mot que je voulais avoir, c'est que un catalogue, à quoi ça sert? On pose souvent la question, on ne donne jamais les réponses jusqu'au bout. Il faut aussi dire un catalogue, à qui ça sert?
Je vous laisse la parole.
On oublie aussi quelquefois que le catalogue sert aussi pour le personnel de la bibliothèque et à usage interne, pour le travail interne, pour les acquisitions. Par exemple. Il y a deux niveaux, il y a le public, il y a les professionnels, et donc comment varier les deux niveaux?
Dominique l'a répondu. Vous avez une interface proprette qui cache la misère de votre catalogue, parce que malheureusement, à part le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, et encore, on a parfois des difficultés en matière de recherche. Soyons honnêtes, il y a encore du travail de clarification à faire. Mais à part ce catalogue-là, et quelques catalogues fermés, donc confinés dans des centres de documentation. Tout ce qui est mis en ligne, tout ce qui est à disposition pour les usagers, c'est que du bruit. Je vais revenir à l'exemple troyen, qui est l'éloge du bruit. Mais l'éloge par la force des choses, malheureusement peut-être. C'est pas tout à fait volontaire, c'est le fruit d'une histoire. Mais pour clore avec la question des publics, en bibliothèque municipale, à part lorsque vous avez une forte fréquentation en termes d'étudiants. Le catalogue est peu utilisé. La majorité des personnes qui fréquentent nos établissements continuent à poser des questions, d'une part, et d'autre part, à naviguer dans les rayons. On vient de me prouver le contraire. En revanche, pour le public dit étudiant, de licence 1 à 3e année de doctorat, là, il y a pertinence du catalogue. Et pourquoi y a-t-il pertinence du catalogue? Parce qu'il y a travail collaboratif et unité de description, au travers du SUDOC notamment. Il suffit de faire un tour en BU. J'étais à la BU de lettres de Rennes pendant 2 jours hier, où vous avez 20 catalogues alignés les uns à côté des autres. Que font les étudiants? Ils passent leur temps sur le catalogue. Mais c'est un public ciblé, spécifique, qui a des besoins précis, avec des collections précises, qui ne sont pas nécessairement encyclopédiques. En bibliothèque municipale, on a la volonté d'encyclopédisme, sans exhaustivité. Mais forcément, on est là pour répondre à des besoins divers. Ce type de réponse, et les réponses qu'on va apporter, elles seront toujours partielles. Parce qu'on ne peut pas être exhaustif, d'une part, et d'autre part, parce que nos catalogues sont le reflet d'une histoire. C'est là que l'exemple troyen intervient. La réinformatisation qui a été faite, il y a maintenant l'informatisation qui a été faite, la conversion rétrospective des données qui a été faite il y a environ 10 ans, ça date de 96, entre 96 et 98, a conduit à l'introduction et la création d'un catalogue rempli d'erreurs. Très clairement, je pense qu'on ne peut pas me contredire sur ce point. Et on en fait encore les frais aujourd'hui. Vous avez un catalogue qui est rempli d'erreurs, avec lequel on doit faire avec. Catalogue qui a fait l'objet d'un travail de correction minutieux pendant près de 10 ans, notice à notice, sur le point, et ça le Fonds Science c'est quelque chose, le Conservatoire régional c'est quelque chose. Travail de correction pourtant essentiellement sur les la documentation locale et sur la documentation, sur le fonds patrimonial, sur les collections de la culture publique, il y a eu de la reprise également. Mais à partir d'un certain moment, on a posé une condition. partir de l'ouverture de cet établissement, il y a une condition qui a été posée et qui est en train d'être respectée, parce que derrière il y a une dimension réseau, une forte dimension réseau, c'est-à-dire qu'on travaille non plus en interne une bibliothèque et ses deux annexes qui reviennent sur le quartier, mais derrière vous avez quatre autres sites, plus deux autres qui sont reliés. Donc on raisonne à l'échelle d'un réseau de bibliothèques, à l'échelle d'un territoire élargi. Il faut que les pratiques soient communes. Il ne faut pas qu'il y ait cette manière de cataloguer. Vous intégrez en plus les documents de la BDP, qui sont versés dans deux sites, qui étaient versés dans deux sites, ça sera, on en est à un aujourd'hui, vous rajoutez une dimension complémentaire de difficulté en termes de recherche. Parce que vous rajoutez une expérience locale. Donc, quel est le choix qui a été fait ? Le choix qui a été fait, c'est de dire on arrête de cataloguer. Et en 4 ans, j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs. Il va de soi que de temps en temps, on a la tentation d'aller corriger la notice. Mais de manière générale, on déverse. On déverse. Et on déverse de fournisseurs variés. En priorité, la Bibliothèque nationale de France et Electra. Mais maintenant, on utilise Bocal, on est allé tester Zebris, et puis pour des raisons internes, on a choisi, et pour des raisons de marché, on a choisi un fournisseur différent, pour des raisons de réseau également, parce qu'on a besoin d'un outil bibliographique un petit peu différent, et maintenant, on se rend compte depuis un mois et demi, deux mois, qu'on peut télécharger les notices de la joie par les livres, en jeunesse. Qui au passage sont des notices et lettres. Parce que l'identifier en 900, c'est une notice épître. Pour les notices, je parlais. Donc, désormais, vous avez l'astra de la rétroconversion, les notices épîtres, les notices BNF, les notices de documents sonores et de documents audiovisuels qui viennent de fournisseurs qui varient suivant les marchés. Une fois c'est Colaco, une fois c'est CVS. Tout cela avec des difficultés, parce que les notices produites ne sont jamais de bonne qualité. Et bien évidemment, pour les notices de documents sonores, on essaie de décharger celle de la Bibliothèque nationale de France, mais on ne trouve pas toujours tout. Donc on fait avec les produits qui sont à notre disposition. Donc on est en face de la diversité. Je mets simplement un exemple sur ce qu'a dit Dominique Lahari par rapport à une situation locale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a un catalogue qui est totalement hétérogène. On a créé une cellule de coordination bibliographique, un poste spécifique, pour donner un petit peu de cohérence. Cyril qui est là, mais ce poste il est également réseau. La cohérence, elle n'est pas pour avoir un catalogue cohérent, elle est pour avoir des pratiques communes, identiques, identifiées, pour qu'on travaille tous de la même manière, pour qu'on évite, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, d'avoir trop d'incohérences dans nos pratiques. Et la dernière chose, c'est que si on a décidé de ne plus cataloguer, de décharger de manière systématique. Donc l'une des solutions que tu présentais. C'est tout simplement pour essayer progressivement de dégager du temps. Dans deux directions. Passer plus de temps sur la sélection, et puis mieux s'occuper du public. Et quand on passe plus de temps sur la sélection, on obtient 90 000 euros du CNL sur 3 ans. Voilà ce que ça veut dire. On peut passer du temps pour aller chercher des subventions, pour travailler sur les collections, sur la direction publique, et puis de l'autre côté, pour travailler sur les publics. La question de l'accueil, la question des services. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la logique, c'est simplement une logique de service. On est à l'âge de la politique des services. Parce que la notion de service public revient en force. Dans les discours, mais également dans les pratiques. Ce que j'aimerais vous montrer enfin, ce sont deux choses. C'est l'évolution des produits bibliographiques. L'évolution des outils de recherche. Est-ce que tu peux aller faire un tour sur le site de Lyon ?
Cliquez
sur Internet. Tu mets BM de Lyon.
Oui, BM de Lyon.
Normalement, Internet est présent. Il faut peut-être cliquer une fois.
Mais attends, il y a le sablier.
Voilà. Donc, on va pas s'occuper de 3, parce que 3, de toute façon, on n'a pas encore de produits suffisamment bons pour aller rechercher dans les bases hétérogènes. Mais quand on est sur Lyon, oui. Mais c'est tiré, c'est ça.
Non, mais.
Oui, il n'y a pas de majuscule.
Il faut qu'il ait le chiffre, il est là.
Catalogue plus. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des solutions de portail qui permettent une interrogation de base hétérogène. on est dans la logique Google. Le service catalogue plus en bibliothèque publique proposé par Patrick Bazin et Yon, c'est ça. C'est la notion d'hétérogénéité. Ça vous permet d'interroger des bases différentes avec un protocole d'interrogation unique qui interroge des standards différents. Parce que derrière ça, vous avez la base bibliographique, le catalogue, le SIGB Bibliomondo aujourd'hui. Vous avez ces portfolios. Vous avez également le guichet du savoir. Et puis enfin, vous avez les différentes bases d'images numérisées. Et quand on interroge via Catalogue Plus, on interroge toutes les bases. Et on obtient des réponses différenciées, aussi bien des notices bibliographiques que des réponses à des questions dans le guichet du savoir, que des images numérisées.
Là, j'ai tapé Canu, parce que c'est un sujet lyonnais. J'ai d'abord, en début, c'est des questions sur dans les guichets du savoir. Hein, donc c'est des réponses à des questions. Après, j'ai un livre. Après, j'ai encore du guichet du savoir. Bon, etc. Donc on est vraiment une vidéocassette, je suis dans l'hétérogène. Donc, et puis d'autre part, ici, vous avez les termes associés. Donc le système cherche quel thème se retrouve aussi dans le... Mais une hiérarchie de vedettes matières qui fait ça. Ce sont d'autres systèmes. C'est vraiment les systèmes contemporains. On va de plus en plus dans le web vers des recherches qui traitent aussi le sens. Hein. C'est compliqué. Hein. On appelle le web sémantique. Bon, on y arrive petit à petit. Et ça correspond à des solutions de moteurs de recherche que vous retrouvez. Hein. C'est de constituer a posteriori des classifications. Elle est produite a posteriori. C'est-à-dire que finalement, dans la philosophie, si on veut professionnelle, l'ordre est issu de la requête. Et non, il n'est pas a priori. Alors qu'on était dans la... oui, ça je ne l'ai pas abordé, mais dans la logique professionnelle qu'on a vraiment appris, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire pré-coordonné. Je construis l'ordre a priori, puis après, l'interrogateur, il se débrouille dans l'ordre. Et les logiques actuelles sont aussi inverses. L'ordre reconstruit à partir de la requête. Et donc là, évidemment, vous avez sa recherche sur des systèmes complètement hétérogènes, donc des notices qui sont encore une structure marque intellectuelle au moins, et puis d'autres choses qui sont, c'est simplement des questions, un système de questions-réponses, tout ça n'a rien à voir. Et donc on mélange tout ça. C'est vraiment ce qui correspond aux évolutions globales hein, de traitement de l'information. Ça. Alors après, les arborescences, on a été quelques-uns aussi à défendre l'idée d'interfaces qui tiennent compte des arborescences. De classification, par exemple. Hein. On déploie des arborescentes. Mais ça, c'était la logique de Yahoo, hein, au départ, l'arborescence de Yahoo. Hein. Donc tout ça, voilà. Tout ça va ensemble.
Non, ce n'est pas une question de fond, vraiment. On voulait savoir à quoi faisait allusion de pertinence et le chiffre qui est à côté, parce qu'on n'est pas habitué dans ce type d'application.
Alors, je vais vous en parler un petit peu en présentant un autre.
Aujourd'hui, la question de la pertinence, c'est quelque chose qui vient du web. Hein. C'est quelque chose qui vient du web, qui vient de Google, qui vient de Yahoo. Hein. Et c'est sur la notion de ranking. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport à la question que vous avez posée, il y a suffisamment de mots-clés, puisqu'on est en texte intégral, il y a suffisamment de mots-clés et de références aux mots-clés par rapport à votre question. OK, mots-clés en langage
électronique.
Parce que excusez-moi, je vais rater en termes de micro, mais là, la question qu'on pose, c'est pas un langage documentaire unifié que l'on retrouve depuis Ramos à date de 40, sans dire de bêtises, parce que maintenant c'est loin pour
début
moi.
80.
Début 80. Quand on rétroconvertit un catalogue qui a eu un siècle d'existence, voire deux siècles, les langages de description qu'on retrouve à Troyes, qui n'ont pas nécessairement été refaits, hein, on a deux siècles de langage plus 20 ans de Ramos. Ou 26 ans de Rameau. Et les 26 ans de Rameau qui correspondent pour l'essentiel à de la documentation de lecture publique, c'est un langage qui parle à peu près correctement au bibliothécaire, encore que, mais alors qui au public ne parle pas. France, espace, géographie, 1940, c'est tout, hein. Demandez, la personne va vous poser géographie française, histoire, hein, l'histoire de la géographie française, en mettant une date. Donc on est là sur... Alors, à votre avis, et c'est là que les choses changent, à votre avis, est-ce que les bibliothécaires doivent éduquer? Est-ce que les bibliothécaires doivent être des prescripteurs? À mon sens, en tout cas en lecture publique, les bibliothécaires sont là pour accueillir. Oui, alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, oui. Les choses sont différentes en effet d'un système scolaire à l'autre.
Aller fouiller dans des rayons, c'est parfait, c'est très bien, mais le catalogue doit être, ou des fichiers, l'autre fois, sont complémentaires, parce qu'ils devraient regrouper d'une autre manière les collections. Mmh. On ne placera jamais les collections de façon idéale, c'est ce que beaucoup de maniaques des collections veulent faire, justement. Mmh. Placer des collections de façon idéale pour qu'on puisse les retrouver en y allant en rayon. Oui. On ne les fera jamais. Non. Donc ce sont des outils complémentaires. Et on n'a jamais fait la promotion d'utilisation du catalogue.
Oui, mais attention. C'est pas pour rien que j'ai dans mon exposé, il y a un retour sur tout le monde cherche. La recherche documentaire, elle est généralisée. Bien sûr qu'elle est intuitive, naïve si on veut. Moi, je fais un cours en DESS à l'université de Cergy. À des étudiants qui sont censés, c'est pas, ils sont pas en technique documentaire, mais enfin ils sont quand même en, si ils sont en édition en gros, et ils sont là à bac plus 4, je leur fais 2 heures sur les outils de recherche sur internet, ils découvrent tout. Ils avaient, bien sûr, il y a à montrer comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc bien sûr on peut, mais on part d'une interface généralisée qui est le web. Dieu sait s'il a fallu expliquer au début que c'était la seule interface qui comptait, parce qu'il y avait des résistances et des fournisseurs de logiciels informatiques et des bibliothécaires. Et puis, la recherche documentaire, c'est la logique web, c'est celle-là. On n'imposera pas une autre logique. Donc, bien sûr qu'on peut faire aider les utilisateurs à chercher, mais à la fois sur le web et sous le catalogue. Et c'est dans le mouvement d'unification des interfaces et des logiques de recherche qu'on pourra se mettre. Et donc, nos SIGB, ils doivent se ressembler de plus en plus. Sinon, c'est une bataille perdue. C'est une voie de garage absolue. Donc, dans la logique du web, on peut traiter tout à fait. Mais il faut se mettre à ça. Et quand on sera dans le courant commun, là, le mainstream, là, de la recherche documentaire, authentiquement de la recherche documentaire, et ben, alors à ce moment-là, on peut améliorer l'utilisation de nos catalogues qui sont sur les réseaux, dans des réseaux intercommunales, par exemple, le catalogue en ligne, c'est absolument... Ça donne un plus à l'usager, c'est une voie d'avenir. C'est important. C'est pas... Mais c'est vraiment dans la logique web. Alors évidemment, la pertinence, pourquoi c'est important? Parce que comme il y a du bruit, l'important c'est l'ordre. Ah, et quel ordre? Et chaque moteur de recherche se place suivant son ordre. Pourquoi Google, tout d'un coup, on a l'impression qu'il avait gagné la martingale? C'est parce qu'il avait inventé un autre ordre, qui était en fonction de la popularité, ce qu'il appelle la popularité, c'est-à-dire le nombre de liens vers une... Ce qui paraissait... incroyable, parce que c'était une logique externe, c'était pas le contenu linguistique interne, c'était vraiment... Et puis il s'est trouvé que c'est ça qui le plus souvent était le plus pertinent. Bon. Et donc nos catalogues doivent marcher, enfin nos systèmes, plutôt nos interfaces de recherche sur le plus en plus de choses, dont des notices bibliographiques, ce qui va en rester, ils doivent avoir un ranking, des calculs de pertinence qui correspondent réellement aux besoins. Et puis, qui sur, regardez là, on surligne votre recherche, vous avez tapé un mot, on sait pourquoi vous cherchez un mot. Combien de fois, il y avait avec les entrées secondaires ou les renvois, les gens, ils tapent un truc, ils avaient une notice, ils comprenaient, qu'est-ce qu'il vient faire là, ça correspond rien à ce que je demandais. Ben, les habitudes du web disent, voilà, vous avez en gras ce que vous avez tapé, etc., et vous avez un ordre. Voilà une logique, et c'est la logique commune. On ne fera pas sans la logique commune. On ne fera pas un isolat dans le monde de l'information, c'est pas vrai. On est dedans. On en est à un cas particulier, mais si on est dedans, c'est bon. Sinon, c'est nous qui sommes morts. C'est le catalogue.
Je sais que tu vas bientôt y aller, mais il y a un second produit que j'aimerais qu'on montre, si tu es d'accord, c'est la bibliothèque municipale de Dole. Alors, je ne vais pas faire l'article pour Archimède, je vais simplement vous montrer l'évolution des portails de bibliothèque avec des produits d'interrogation multibase. qu'on trouve aujourd'hui, qui sont proposés par différents fournisseurs. Je connais celui-là, je n'en connais pas d'autres. Le catalogue plus qui a été construit par ISO, I2XO, pour Lyon, c'est un produit d'interrogation sur le site web. C'est pas l'intégralité du site web de Lyon. C'est un produit d'interrogation. Si je ne me trompe pas. En revanche, le site de la bibliothèque de Dole, c'est un portail complet qui vous donne accès à différentes bases, qui vous donne accès au site de la bibliothèque. C'est pas uniquement un moteur de recherche. Mais en dehors de identifiez-vous, d'aspects gadgets, si vous voulez, vos fichiers, vos impressions, vos avis, vos favoris, etc. Ça, c'est gadget. Hein, parce que c'est des choses qu'on peut faire sur MySpace, sur MSN, des choses qu'on fait sur son blog, des choses qu'on peut faire sur Gmail, sur Google. Vous pouvez garder un espace de stockage sur le SIGmail ou le serveur de la bibliothèque pour vous, en vous connectant à distance. Vous avez ça sur votre autre PC. Ça sert à rien. C'est du gadget. C'est du plus que vend Archimède pour faire passer son produit auprès des bibliothèques. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie unifiée. C'est ça. C'est la partie sur la recherche. Parce que là, vous avez, comme on a à 3, une base de données avec 100 000 MP3 en accès restreint. Vous avez une base de données avec 500 livres e-book en accès restreint. Vous avez, je ne sais pas moi, un catalogue de 130 000, enfin une base d'images numérisées, à l'heure actuelle de 130 000 numérisées, qui va passer à 600 000 lorsque tout sera versé, en accès libre. Vous avez un catalogue de notices en accès libre. Vous avez des ressources que l'on pourrait très bien indexer sur le site web de manière variée. Là, vous avez un moteur de recherche qui permet d'interroger des données hétérogènes au sein d'un portail. Donc là, c'est quelque chose qui est fourni par les producteurs de contenu aujourd'hui. Bon, à l'heure actuelle, là, c'est uniquement le catalogue, hein, à Dole. Mais Hermès et Inkipio pour les bibliothèques universitaires, c'est ce type de produit. Et là, on a quelque chose qui permet une interrogation différenciée, qui fonctionne sur les standards du web et qui débouche sur des réponses qui sont a priori, qui correspondent a priori à l'attente de l'usager et à son habitude sur le web. Et on n'a plus France-quelque chose. France-quelque chose.
Alors là, j'ai tapé un mot portail parce qu'il le disait, donc ça c'est la polysémie des termes, c'est rigolo. Je suis d'abord tombé sur un maximum de photographies de portails d'église. Et puis après, suivant des pages que je tourne comme ça, comme les résultats dans les moteurs de recherche, c'est ça ce à quoi les gens sont habitués, ben, je tombe sur des bouquins, et puis j'ai même internet du site au portail, etc. Voilà. Bon. Et puis j'ai un site, portail de la médiathèque des sites de la Villette. Voilà. Et donc, c'est ça que veulent les gens, c'est ce qui est large, hein. C'est pas limité.
Ils veulent du bruit.
Voilà, et puis, si vous précisez.
Le moteur est là pour ça.
Bah, si je tape portail et internet, on sait, on apprend les gens, vous avez un seul mot, vous avez moins de chance. BM Lyon, si vous tapez un seul mot, il vous disait, je ne vais pas montrer bien qu'il dit, attention, vous avez tapé qu'un seul mot, c'est moins précis. Hein? Il faut que les gens apprennent à circonscrire leur recherche. Mais ils circonscrivent leur recherche avec des stratégies qui emploient leur langage à eux et non pas un langage documentaire qu'ils doivent acquérir. Et là, vous n'avez plus que deux, Internet portail. Hein, voilà. Donc, j'ai précisé ma recherche. Et ça, c'est dans la logique de la recherche intuitive. Je lance un coup, pof, j'ai trop de résultats, j'affine. Je remets un mot, j'en enlève un, puis après on peut leur apprendre des trucs, il y a des tas de trucs à apprendre. Mais ça part de l'intuitif.
Hein? Le discours d'ancien est simple. À quoi ça sert de cataloguer en bibliothèque publique quand il y a des professionnels de l'information de très haut niveau qui font ça pour vous? Ce qui permet de donner de l'unité à l'intégralité à l'ensemble de nos catalogues, d'une part. Et ensuite, adaptons nos produits. Adaptons les produits qu'on propose à la manière dont les gens sont habitués de rechercher aujourd'hui sur le web. Parce que les langages documentaires, tels qu'on les pratique, tels qu'on continuera au moins partiellement à les pratiquer, c'est l'école des langages, le professionnel qui nous sert à répondre. Ça fait, pour une part, notre identité. Ça conditionne, pour une part, notre identité. Mais elle est en train d'évoluer. Parce qu'on revient sur la notion d'accueil. Parce qu'on revient sur la notion d'information pertinente. Etc. Et on revient sur une logique de service. Là, vous avez un service complémentaire. Évidemment, ça peut paraître gadget. Mais ça n'est pas totalement. Parce que c'est comme ça que fonctionne Google. Est-ce que certains d'entre vous utilisent généralement les pages en cache de Google?
Oui.
Eh bien, c'est le même principe. Les pages en cache de Google, c'est tout simplement ce que l'on trouve sur le serveur, ce qui est stocké sur le serveur de Google. Parce que le principe de moteur de recherche Google, c'est simple. C'est de manière régulière, récurrente, une série de robots qui moissonnent le web, qui en font une image, qui est stockée sur un serveur, et vous interrogez l'image. Ce qui est indexé, c'est le web. Google indexe le web sur ses serveurs. Il en fait une copie, corrigée de manière régulière. Et l'image en cache, c'est l'image qui est en mémoire sur le serveur, dans laquelle vous pouvez voir vos mots-clés, surlignés en fonction des questions que vous avez posées. Forme de couleur. Et quand l'ensemble des mots, toutes les couleurs se retrouvent sur une même ligne, vous avez une réponse adéquate. Ça vous permet de savoir comment ça fonctionne. Et la page qui est en haut de la zone de recherche en plus de la popularité, c'est celle où vos mots sont présents en plus grand nombre. De toute façon.
Alors là, vous avez un autre exemple de qui vous permet d'affiner. Bon, je vais chercher Nicoletta, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, bon, c'était rigolo. Mais là, on vous dit, vous avez des, là-dedans, vous avez répartition, vous avez des vidéos avec des films d'horreur, vous pouvez chercher d'autres films d'horreur, etc. Des romans pour adolescents, pof, on peut chercher ça. Vous voyez ? Donc on rebondit. On peut rebondir d'une recherche sur l'autre avec ce système. Donc ça, c'est plus évolué à gauche que Google. Hein. Google n'offre pas ça, mais d'autres moteurs de recherche l'offrent. Hein. C'est fabriquer des mots-clés à partir des résultats et proposer des rebonds. Mais Christian Ducharme s'est bien parlé du rebond aussi, et ne serait-ce que dans les, y compris dans les données bibliographiques.
Pour cet après-midi. Une question et une remarque concernant les recherches type Google dont Louis vient de parler. On est quand même confronté à un problème qu'on rencontre à Troyes lorsqu'on indexe des images et des documents sans répondre à une norme précise, une description un peu maison. Et pour la base d'images, notamment les images de fonds locales. Et donc, on a pour élargir la recherche, on indexe tous les mots de la notice descriptive en disant, comme ça, on va interroger de manière large. Et on va bien tomber sur les mots, sur un mot qui correspond, qui sera contenu dans la notice et qui va répondre à la demande de la personne qui fait la recherche. Mais on se trouve confronté à un problème. Par exemple, quelqu'un fait une recherche sur le vitrail, et dans le titre, on a le mot vitraux. Donc, si tu as vitrail, il ne va pas tomber sur le document, parce que dans le titre, ou dans les commentaires, ou dans la notice, il sera marqué vitraux. Et s'il fait une recherche peinture sur verre, il ne obtiendra pratiquement rien. Alors, comment est-ce que lui. C'est le problème des recherches Google, c'est qu'ils surlignent les mots qu'ils trouvent dans les pages, mais évidemment, on ne tape jamais le bon mot, donc on passe à côté de beaucoup de recherches qui nous intéressent. Et ça, c'est tout le problème des autorités, qui est quand même important pour faire que l'on trouve ce qu'on cherche au bout du compte.
François de Bourdon.
Oui, je voudrais intervenir justement sur les limites de la recherche sur le texte intégral.
Bien sûr, tout à fait.
C'est vrai que Google fait la recherche intégrale, mais il faut bien voir les limites, notamment dans un univers multilingue. Et c'est en ça qu'il faut voir l'intérêt de systèmes d'indexation construits, un petit peu comme le Rameau, qui n'est jamais qu'une reprise de ce qui se fait aux États-Unis avec les subject headings de la Bibliothèque du Congrès, qui est la même chose que ce que font les Allemands avec leur fichier d'autorité matière. Il y a beaucoup de recherches actuellement au niveau international, justement pour faire de l'interopérabilité entre ces différents fichiers d'autorité matière pour permettre des interrogations multilingues dans des catalogues, enfin, plutôt dans des catalogues, ça c'est sûr. Juste un premier point, donc ça rejoint la précédente remarque. Et je voudrais simplement aussi insister sur le fait que même là, dans les portails, quand on arrive à marquer chaque document en disant ça c'est une vidéo, ça c'est une image, ça c'est du texte, ça c'est une partition musicale, ben, c'est parce que quelque part c'est écrit dans une notice.
Bien sûr. Hein?
Et donc, on ne peut construire des produits comme ça que si à chaque niveau en dessous, il y a un bon respect des normes. Donc là, je mets ma casquette à FNOR, je suis responsable de la commission 357, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est modélisation des données, production et accès aux documents. Et justement, toute la réflexion vise non pas à parfaire sans arrêt les normes de catalogage, mais justement à rechercher le minimal, le niveau minimal indispensable pour pouvoir faire tourner les descriptions de documents et les points d'accès aux documents dans des produits beaucoup plus vastes que les simples catalogues. Donc si chacun respecte les normes à son niveau, je pense que c'est un petit peu le sens de l'écriture de cette norme sur les manuscrits et les livres anciens dont vous parliez. C'est bien parce qu'il va arriver en France le catalogue général des manuscrits conservés dans les bibliothèques publiques, que tout le monde va vouloir corriger ses notices et que pour tout le monde travaille avec un minimum de pratiques communes. Donc la normalisation est quand même derrière tout ça.
Alors je dis tout à l'heure qu'il y avait plus de normalisation. Mais elles sont un petit peu différentes, elles évoluent, donc on les reconnaît pas forcément comme telles. Et donc, bien sûr, là, par exemple, quand vous avez à gauche une typologie des romans, ça, c'est des choses qui ont été rentrées, hein, parce qu'on a considéré que identifier les genres des romans était intéressant à la politique d'offre de documentaire. Ça, c'est pour le public. Hein. Donc, tout ça, évidemment, c'est parfois des travaux. Donc, c'est changé. En gros, le rêve, c'est laisser tomber la description, essentiel, et faire attention à ce qui est important pour le public. Alors, c'est vrai que la question, après je vais m'en aller parce que je prends mon temps, je suis désolé. Outils pour le personnel, c'est une question importante, mais il faut bien faire attention de faire la différence entre habitude de travailler comme ça, en gros, comme il fallait qu'on fasse un catalogue, on le faisait pour nous, en gros, hein, puis ça pouvait servir aussi, et puis il y a d'autres façons de chercher. Mon collègue, on récupère tout, j'ai un collègue qui gère toutes les demandes de réservation de BDP. Maintenant, les BDP n'ont pas seulement des bibliobus, etc. Il y a des réservations, etc. Il y a des demandes ponctuelles de vrais gens qui ont vraiment demandé des trucs. Eh bien, il se débrouille avec ce catalogue. Ça marche, mais autrement, peut-être. Hein. C'est une question de d'habitude. Allez, bonne journée. Je suis désolé, mais j'ai un truc à faire dans mon département cet après-midi. À plus.
Bon retour.
Merci.
Je voulais compléter la question sur Google, c'est le rendez-vous à la société Electre. Juste sur les contenus, ça me semble très intéressant ce qu'a dit Françoise Beaumont aussi sur l'aspect de la qualification de l'information, notamment en termes de vedette matière. Juste une petite expérience pour vous montrer qu'effectivement, on peut, avec des technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple des technologies XML, associer des contenus qui ont une très forte valeur ajoutée, comme l'indexation analytique, et faire tourner des robots qui peuvent effectivement, au moment de la recherche, en fait, indexer cette information à la volée en termes d'occurrence, ce qui permet de restituer dans la recherche instantanément, en fait, les descripteurs les plus importants. On fait ça maintenant, vous voyez ça dans beaucoup de sites Web 2.0 où on voit les plus gros qui apparaissent en tête. Et ça veut dire qu'on peut, en fait, dynamiser cette information. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire de pouvoir s'asseoir sur un contenu indexé qui a une très forte valeur ajoutée et de lui donner de l'intelligence. C'est-à-dire de pouvoir, en fait, conceptualiser les outils de recherche de manière nouvelle, puisque maintenant, on a des robots intelligents. Et donc, il faut utiliser ces robots, et le plus difficile pour nous, c'est de concevoir ça.
c'est-à-dire c'est de sortir de son monde qu'on a pensé jusqu'à présent avec des limites technologiques, où maintenant on peut le penser de manière totalement interactive, on verra tout à l'heure, je vous présenterai les web services et tout ça, de façon complètement nouvelle. Et là, on rentre dans un monde où le poids de l'information, effectivement, en termes de sources et de bases, comme les lexiques, les thésaurus, les taxinomies, les folksonomies, on voit des choses apparaître sur Internet absolument incroyables, sur la sémantique, ben, tout ceci va donner, en fait, aux moteurs de recherche et aux catalogues, et c'est là où c'est formidable, parce que c'est la deuxième vie des catalogues, si on en est qu'au début de ce que va être le catalogue de demain, ça va être quelque chose de formidable. Donc, et au catalogue, en fait, quelque chose de passionnant. Je ferai juste un petit exemple. Aujourd'hui, il y a Bon Baiser de Lille, c'est une manifestation à Lille qui est très intéressante. Donc nous, on a fait une petite expérience avec le Furet du Nord, en se disant, on va essayer de faire en fait un catalogue interactif sur l'Inde. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a indexé sur la base élect tout ce qu'on pouvait rechercher sur l'Inde, alors en vedette matière, en différentes façons, il y a différents thésaurus. Puis on a fait une sous-base. Et cette sous-base, on essaye de l'indexer à la volée, justement comme ça, et on va en faire un libre accès au public. Et l'idée même, ce serait que le public puisse lui-même taguer cette base pour lui donner aussi son sens, et pas le nôtre. Et là, ça devient tout à fait intéressant. C'est-à-dire que le public devient un acteur participatif, et là, j'emploie un terme qui va devenir de plus en plus fort, architecture de participation. On ne peut plus envisager un catalogue sans une architecture de participation.
C'est le cas des produits Archimède.
Tout à fait, tout à fait. Le portail est l'exemple, voilà. L'exemple de ça. Voilà, juste un petit mot
là-dessus. Plus il y a d'avis, plus il y a d'avis positifs, plus le document est étoilé, avec un petit étoile dans le contenu, c'est un peu à peu. Et puis, vous consultez ça, vous tombez sur la notice, il y a plusieurs étoiles, comme au cinéma, comme sur le ciné, etc. Hop, vous allez le prendre parce que des gens ont dit que c'était bien. C'est sur le principe de la popularité, mais d'un autre côté, la popularité n'est pas la vérité.
C'est-à-dire que, en fait, vous voulez parler des paniers que les gens font, ou est-ce qu'ils rajoutent même des notices, ou
c'est un autre type d'approche, et en fait, un nouveau système qu'on essaie de mettre en place sur l'indexation au moment de la recherche. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va se créer dynamiquement, c'est pas quelque chose d'a priori, comme c'est bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la recherche elle-même, on va extraire ce qui nous semble avoir du sens et qu'on va organiser ce sens dynamiquement dans la restitution.
Donc en fait, c'est la façon qu'aura le public de poser la question qui déterminera.
Alors le public peut poser en fait. Des exemples sur la partie du catalogue de ce type-là aux États-Unis. Le public peut poser ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. N'importe quel thème va trouver une réponse. En fait, on est effectivement sur le réservoir.
On est sur un vocabulaire indexé qui est très, 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 très large. Et la pertinence va se retrouver par la taille de caractère ou par un certain nombre de choses. Donc évidemment, ça fait du bruit, hein, mais c'est un bruit organisé. Donc c'est un bruit où on peut tout de suite aller, si on voit un mot-clé sur réalisme, si c'est ça qui nous intéresse, on va là, si on voit de l'histoire, sur autre chose. Donc on va retrouver quand même un sens qu'on n'a pas aujourd'hui sur Google. Et ça, je rejoins tout à fait Françoise Bourdon là-dessus, c'est-à-dire qu'on a impérativement besoin de socles solides, normé sur lequel on peut s'appuyer, et c'est ce qui fait la force des bibliothèques depuis toujours, et c'est ce qui fera toujours qu'elles sont en avance sur tout le monde, c'est parce qu'elles sont normalisées, ça c'est clair. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Parce que je peux aussi parler à voix haute. Le compte est juste un accessoire. Y a-t-il d'autres questions déjà? Le programme de cet après-midi, parce que j'en viens à l'évoquer rapidement, permettra de vous présenter quatre grands réservoirs de notices et sera conclu par Madame Pardon sur les évolutions de la politique de la Bibliothèque nationale de France. Bon, c'est pas lui, et puis un petit peu sur notre vision du choix. Oui, oh. Alors, on vous présentera la base Zebris, la base Electre. On verra quel ordre, si vous voulez. La base Mocam, qui est un petit peu une nouvelle venue. Et bien sûr, les produits bibliographiques de la Bibliothèque nationale de France, qui sont, pour l'ensemble des bibliothèques publiques, aujourd'hui, entièrement gratuits. Qui étaient auparavant vendus par une société dont on reçoit encore les produits ProQuest. Mais aujourd'hui, c'est entièrement gratuit.
Une chose qui est importante quand même, c'est que on a, si on a fait cette journée, c'est pas uniquement pour dire un catalogue, ça reste nécessaire à la consultation. Ça reste nécessaire comme outil pour les professionnels. C'est en train d'évoluer, comme on essaie de vous le montrer. Il y a des réflexions en matière de normalisation, comme on essaie de vous le montrer. Cependant, ce qui doit évoluer, c'était tout le discours de Villard, ce sont les pratiques. C'est-à-dire d'essayer d'avoir des pratiques normées, d'avoir des pratiques communes, pour l'essentiel de récupération ou de collaboration, de participation à un catalogue collectif, pour qu'on dégage du temps, non seulement pour mieux indexer, pour développer de nouveaux produits, et développer de nouveaux services. On ne dit pas que le catalogage ça ne sert à rien. On dit qu'il faut dégager du temps pour faire d'autres choses. Parce que la majorité des services dans lesquels on travaille, lorsqu'on est en bibliothèque publique, ça c'est un credo, mais j'assume, les bibliothèques publiques sont financées sur crédit public, avec beaucoup d'agents, ce sont des services publics. Le service public, c'est fait pour accueillir des gens. C'est pas fait pour faire la queue. Je sais que je suis un petit peu cavalier, mais toute la philosophie qu'il y a derrière, c'est quand même celle-là. C'est-à-dire, non seulement de se concentrer sur l'évolution de notre profession, l'évolution du métier, et la question qui est derrière, qui est celle de l'identité. Parce que, à mon sens, au moins partiellement, quand on en vient à poser ce type de question à la fin du catalogage, c'est qu'il y a peut-être d'une façon artificielle, mais pas uniquement, une forme de crise d'identité. Qui est liée, entre autres, et partiellement, mais ce n'est pas relié par la bibliothèque d'information ou par la BNF, à un déficit des politiques publiques. Parce qu'on a toujours attendu tout de l'État, et qu'aujourd'hui, les acteurs principaux en matière d'écriture publique sur le territoire, ce sont les collectivités locales et territoriales, essentiellement. Avec la constitution progressive d'un réseau de lecture publique à l'échelle nationale, au travers de la Bibliothèque nationale de France et de la BPI, de notre côté. Donc, les choses sont en train de se restructurer. Voilà. Bon appétit.